Thèse français, belge, belge, extrémiste, extrémiste, mon président français de souche, mon émigré préféré.
Ta gueule.
Mesdames et messieurs les jurés, mademoiselle Le Pen, mademoiselle Le Pen, mademoiselle Le Pen, madame Le Pen, public chéri, mon amour. Comme j'ai eu l'occasion de le démontrer ici même récemment,
elle est morte.
Avec un brio qui m'étonne moi-même, malgré la haute estime en laquelle je me tiens, depuis que je sais qu'il coule en mes veines plus de 90% de... Vous allez rire. Plus de 90% de sang à rien et moins de 3 grammes de cholestérol. Ah, les débats auxquels vous assistez quotidiennement, mesdames et messieurs, ne sont pas ceux d'un vrai tribunal. En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio.
Ah bon ?
Qui pisait ? Je te traduirai après. Qui pisait une émission de radio dite comique, ou au moins qui tente de l'être. Alors, le rire, parlons-en, et parlons-en aujourd'hui, alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. Car la présence de M. Le Pen en ces lieux, voués plus souvent à la gaudriole parajudiciaire, pose problème. Les questions qui me hantent, avec un H comme dans Halimi, les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout ? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde ? À la première question, je répondrai oui sans hésiter, et je répondrai même oui sans les avoir consultés pour mes corréligionnaires en subversion radiophonique, Louis Rego et Claude Villers. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous ? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort ? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure. Alors ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, et tout d'un coup ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, quel autre échappatoire que le rire, sinon le suicide, poil en ride. Donc, on peut rire de tout, y compris de valeurs moins sacrées, comme par exemple le grand amour que vit actuellement le petit roi inamovible de la défense passive, qui, ici présent, son grand amour s'appelle Marika, c'est la seule arienne au monde qui peut le supporter. Ce qu'on comprendra aisément quand on saura qu'il s'agit de la poupée gonflable en peau de morue suédoise que sa tata Rodriguez lui a envoyé de Lisbonne en paquet Prado.
Couchez, procure, couchez.
Deuxième point, peut-on, écoute-moi Louis, peut-on rire avec tout le monde ? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant, par exemple, me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie, dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice, sous laquelle je ne vous raconte pas. Attention, ne vous méprenez pas sur mes propos, mesdames et messieurs les jurés. Je n'ai rien contre les racistes, c'est le contraire. Comme dirait mon charmant ami le brigadier Georges Rabol, qui est ici, qui joue du piano ici tous les jours, et qui, je le précise à l'intention des auditeurs qui n'auraient pas la chance d'avoir la couleur, est presque aussi nègre que pianiste. Tant, Dans une journée particulière, le film d'Ettore Scola, Mastroianni, poursuivi jusque dans son sixième par les gros bras mussoliniens, s'écrit judicieusement à l'adresse du spadassin qui l'accuse d'antifasciste. Vous vous méprenez, messieurs. Ce n'est pas les locataires du sixième qui est antifasciste. C'est les fascistes qui est anti-locataires du sixième. Les racistes sont des gens qui se trompent de colère, disait avec mansuétude le président Senghor, qui est moins pianiste, mais plus nègre que Jean Genet. Pour illustrer ce propos...
Mais Rabol est français, lui.
Oui, c'est toujours ça. Pour illustrer ce propos, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter une histoire vraie, Monsieur Le Pen. Cela nous changera des habituelles élucubrations névropathiques inhérentes à ces regrettables réquisitoires. C'est une histoire de chauffeur de taxi, justement. Je sortais récemment d'un studio d'enregistrement, c'est une histoire vraie, hein, j'insiste là-dessus, sinon c'est pas intéressant. Je sortais récemment d'un studio d'enregistrement accompagné de la pulpeuse comédienne Valérie Mérès, avec qui j'aime beaucoup travailler, non pas pour de basses raisons sexuelles, mais parce qu'elle a des nichons magnifiques. Nous grimpons dans un taximètre, sans bien nous soucier du chauffeur, un monotone quadragénaire de type romorantin, coupe rosée de frais, et poursuivons une conversation du plus haut d'intérêt culturel, tandis que le taxi nous conduit vers le Châtelet. Mais, alors que rien ne le laissait prévoir, et sans que cela ait le moindre rapport avec nos propos, qu'il n'écoutait d'ailleurs pas, cet homme s'écrie soudain « Ah ben moi, les Arabes, je peux pas les saquer !» Ignorant ce trait d'esprit sans appel, ma camarade et moi continuons notre débat. Pas longtemps. 30 secondes plus tard, ça repart. Ah ben moi, les Arabes, vous comprenez, c'est pas des gens comme nous. Moi qui vous parle, j'en ai eu comme voisin de palier pendant 3 ans, ah ben merci bien. Ah, les salauds, hein. Alors leur musique à la con, merde. Hein. Alors vous me croirez si vous voulez, hein. C'est le père qui a dépucelé la fille aînée. Ah ça, c'est comme ça, hein. C'est les Arabes. Alors ce coup-ci, je craque un peu, je me retourne et je dis, monsieur, je vous en prie, mon père est arabe. Ah, bon. Ah, remarquez, votre père, je dis pas, hein. Ah, ça... Il y en a des instruits, hein. Et puis vous, on voit bien que vous êtes propre et tout. D'ailleurs, je vous ai vu à Belmar. À l'arrière, brinque-ballé entre lire et la joie, nous voulons encore ignorer. Hélas, la pause est courte. Oui, votre père, je dis pas, hein. Mais alors, les miens d'arabe, pardon. Hein. Alors, ils avaient des poulets vivants dans l'appartement, monsieur. Hein. Et vous savez ce qu'ils leur faisaient? Ils leur arrachaient les plumes rien que pour rigoler. Et la cadette, je suis sûr que c'est lui aussi qui a dépucelé. Hein. Ça, je suis sûr. Ça s'entendait, alors. Mais votre père, je dis pas. Hein. Et puis, de toute façon, les Arabes, c'est comme les Juifs, ça s'attrape que par la mer. Cette fois, je craque vraiment. Ma mère est arabe, monsieur. Ah bon, oh là là, la Concorde, à ce temps-là, il n'y a pas moyen, hein. Oh là, et comment ces connards, allez, c'est vert, mais il est con, allez, retourne dans ton 77, les connards. Voyez-vous, monsieur, reprend-il à mon endroit, moi, mon derrière, voulez-vous que je vous dise, il n'y a pas que la race, il y a l'éducation. C'est pour ça que votre père et votre mère, je dis pas. D'ailleurs, je le dis parce que je le pense, vous n'avez pas une tête d'arabe. Hein, ça. Et ça, c'est, croyez-moi, c'est l'éducation. Remarquez, vous mettez un arabe à l'école, hop, il joue du couteau. Et il empêche les Français de bosser, hein, ça. Ah, c'est vrai, ça. Bon, alors voilà, 67 rue de la Verrerie, nous y sommes. Ça nous fait 32 francs. Je lui donne 32 francs. Ah ben, vous n'êtes pas généreux, vous allez pour les chiens. Ah, c'est comme ça à me venger, j'en fin. Je ne donne pas de pourboire au blanc. Jamais. Alors cet homme, tandis que nous éloignons vers notre sympathique destin, baisse sa vitre et me lance « Crève donc, eh, sale bico !» à moi qui fais ma première communion à la Madeleine. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs les jurés. Voilà un homme qui se trompait de colère. Le temps qui m'est imparti, socialiste mais pas national, c'est toujours ça de prix. Le temps qui m'est imparti, ainsi que la crainte de quitter mon nez rouge pour sombrer dans la démonstration politico-philosophique, m'empêche de me poser avec vous la question de savoir si ce chauffeur de taxi était de la race des bourreaux, ou de la race des victimes, ou des deux, ou plus simplement de la race importune et qui partout foisonne, celle dénoncée par Georges Brassens, des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Aussi bien laisserai-je maintenant la parole à mon ami Louis Régaud, qui poussa naguère ici même le plus troublant des cris d'alarme. Louis Régaud a dit ici, les chiffres sont accablants, il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde.
Merci monsieur le procureur, la parole est à la défense. Maître Régaud, nous vous écoutons.
Amis de la justice et du fascisme, bonjour. Freude der Justiz! Und das Faschismus! Allez, Hitler! De quoi? Arrêtez, ça vous rend nerveux, ça, président.
Non, c'est le signe que vous avez fait qui me rend nerveux.
Hein, nous sommes en démocratie, président. Ah, bon.
Justement.
De quoi est-ce qu'on accuse ton Monclure? Oui, je sais.
Oui, je sais.
Je sais, comme dirait Gabin, que l'extrême droite, ce n'est pas le fascisme.
Je sais.
Mais on a quand même le droit d'être fasciste, même si on n'est pas d'extrême droite, merde! Ne m'énervez pas. On est en démocratie, profitons-en, parce que quand l'extrême droite sera au pouvoir, on n'aura peut-être plus le droit d'être fasciste. Allez, là! Je suis fasciste, je m'assume, je vous laisse vivre, foutez-moi la paix. C'est vrai quoi, les gens, dès que vous dites « je suis fasciste », vous regarde d'un mauvais œil, alors qu'il suffit de ne pas le dire et personne s'en aperçoit. Il y en a marre, je suis un citoyen comme les autres. Vive la France, vive le Führer! Et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que vous croyez, amis de la tolérance? Que nous sommes plus à camp que les autres? C'est faux. C'est faux. Nous sommes aussi énervés que les autres face aux injustices et au laisser-aller, au manque de respect et de responsabilité de nos dirigeants. Savez-vous au moins ce que nous voulons? Eh bien, je vais vous le dire. Une société parfaite! Une société parfaite, amis libéraux, écoutez-moi bien. C'est une société où les chiens font où l'on leur dit de faire! Où il n'y a pas de grève, où les partis politiques ne viennent pas nous beurrer l'arrêt à la télé, où les travailleurs immigrés sont là pour travailler et non pas pour se coinfrer de couscous ou de morue. Où le terrorisme doit être interdit. Les riches doivent être contents d'être riches et les pauvres contents d'être pauvres. Où tout le monde doit être uni contre tous les autres. Où l'oncle doit être marié avec la tante. Bref, une société parfaite, c'est une société où l'on ne rit pas bêtement. C'est ce qu'on demande, nous. C'est ce qu'on demande. Le bonheur et rien de plus. J'ai été élevé dans une ambiance fasciste et si je respecte mes parents, c'est grâce à eux. Mais je suis sûr que vous vous demandez comment un nazi peut vivre heureux au milieu de cette pagaille. Eh bien, c'est très simple. Je peux vous dire ce que j'ai fait hier. 5h du matin. Je saute de mon lit en fer où je dors sur des clous. Mon réveil automatique me chante Ali, allo, allo. Encore endormi, je salue le portrait du Führer. Allez là. Qui est juste au-dessus de mon lit, avant de me laver les dents, avec une brosse en fer également. Six heures. Petit déjeuner composé de saucisses de Francfort. Pommes de terre, choucroute, bière à volonté. 7 heures, j'achète Minute pour me tenir au courant de ce qui se passe chaque minute dans le monde. 8 heures, j'ai fini la première page et je relis Mein Kampf ainsi que les œuvres complètes d'Himmler sur l'organisation des SS et le salut de la race arrière. 9 heures, je pars déjouer le complot contre mon pays. Et je me rends aujourd'hui à la brasserie munichoise, rue de Verdun. Il fait plus de 5 degrés, j'ai très chaud. Je bois de bière. 10 heures, il fait une chaleur infernale, 7 degrés. Je fais remarquer gentiment au barman qu'il est arabe et que c'est pas une raison pour être aussi lent à me servir une cinquième bière. 11 heures, après avoir entendu dire du mal de la France un peu partout dans cette brasserie, je pars écœuré. Midi, je fais quelques courses. 2 kilos de pommes de terre, une boîte de Francfort, 2 kilos de choucroute, 10 litres de bière allemande et une matraque. 1 heure, mon concierge portugais me dit bonjour. Je lui réponds pas comme d'habitude. Ça sent encore la morue partout dans la cage de l'escalier. 2 heures. Pendant que la choucroute cuit, je bois une bière et je prépare une pétition afin de faire expulser le noir du 6e ainsi que le concierge portugais et toute sa famille parce qu'il a fermé la porte de l'entrée de l'immeuble à 10h05 au lieu de 10h. 3 heures. C'est plus de la choucroute, c'est de la bouillie. Tant pis, je bois de la bière en écoutant du Wagner. 4 heures, je reçois un coup de fil anonyme, une voix qui me dit « Salaud, on aura ta peau. » Je suis sûr que c'est le noir du 6e. Et sur la porte duquel j'ai gravé une croix gammée à la hache hier soir. Je l'emmerde. 4h30, je cire mes bottes d'officier allemand SS que j'ai acheté aux puces. Puis je me mets mon manteau de cuir noir avant de me rendre chez le tatoueur. Et je bois une bière pour la route. 5h, il est exactement 5h pile. Je rentre chez le tatoueur pour me faire faire un tatouage du Führer sur l'omoplate droite. La séance commence. Au bout de 5 minutes, les douleurs sont intenables. Je serre les dents sur le goulot de ma canette. Mais l'amour du Führer demande beaucoup d'abnégation. Tout d'un coup, horreur ! Horreur ! Je m'aperçois que la chaîne que le tatoueur porte à son poignet est gravée de son nom. Lévi ! Lévi, j'ai du mal à me contenir, à contenir un cri de rage. L'aiguille me fait de plus en plus mal. Je suis torturé par un juif. J'ai mal, j'ai mal. C'est long. Pourvu qu'il s'apparte. Pardon, pouf, pouf, pouf. Pourvu qu'il ne s'aperçoit pas de mon admiration pour les Allemands. C'était au moins le cas. Le tatoueur me dit, c'est presque fini. Si vous voulez, je peux vous faire Himmler sur l'omoplate gauche. Oh, l'enflure, je le paye et je m'en vais. 7 heures, je ne peux plus bouger mon bras droit. Les douleurs sont insupportables. Je prends le métro. Dans un couloir, une affiche d'Amnesty International provoque chez moi une haine sanguinaire. Sanguinaire. Je sors mon gros feutre noir de ma poche avec ma main gauche pour exprimer ma rage. Mais j'ai du mal à écrire avec ma main gauche. 7h30, après avoir fait des pâtés sur l'affiche, j'arrête un passant et je lui demande gentiment de marquer dessus avec mon feutre « Mort aux Juifs et aux bougnoules ». Le type me demande en rigolant « Bignoule, ça prend de l'aile ?» Je lui dis « Fais ce que je te dis et ta gueule !» Aussitôt, il me balance un coup de tatane dans les tibias et un second dans le bras gauche. La vache ! 8 heures, écroulé à terre, j'ai mal partout. Une main charitable me prête secours. C'est la main d'un policier. Il me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « Oh ben, j'ai empêché un salaud d'écrire des injures sur l'affiche. » Et il m'a assommé. Le policier me dit « Vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là, hélas !» Il essaie de me relever par l'omoplate droite. Je pousse un hurlement de douleur. Hey 8h30, je me traîne en boitant, mes deux bras mortifiés devant la brasserie munichoise. Je tombe sur la belle Elsa, ses cuissardes, son berger allemand. Elle me dit, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu montes? Je lui dis, oui, j'ai besoin d'amour. 9h, je donne ma matraque à Elsa, je m'allonge sur son matelas sordide et je lui dis, achève-moi salope, ça va me détendre. Elle retire son manteau de renard, elle n'a plus que ses cuissardes et son porte-jartel et elle commence à m'écraser la gueule à coups de matraque. Je lui dis, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça me fait du bien quand tu me fais mal. Elle me dit, hein, t'aimes ça, salaud? Hein, t'aimes ça? Je lui dis, oui, 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 oui. Il y a ton chien de me mordre aussi. Neuf heures et demie, j'ai des frissons. Je suis en lambeau. Le chien ne m'a pas loupé. Mais j'ai jamais aussi bien fait l'amour de ma vie. Je repasse à la brasserie pour prendre une bière pour la route. Je ne tiens plus debout. 10h05, j'arrive à quatre pattes devant la porte de mon immeuble. Elle est fermée. Et j'ai oublié la clé. Merde! Et c'est contre Portos qui a fermé à l'heure. Fou de rage, je balance des coups de tatane dans la loupe. Parce que mes bras me font trop mal. Mais il fait semblant de pas m'entendre, l'enflure. Minuit, je tombe de fatigue et de sommeil et je me couche dans une poubelle après avoir vomi. 4h du mat, j'ai des frissons. J'entends la porte qui s'ouvre. C'est le noir du 6e qui part au boulot. Je hurle. Laissez la porte ouverte. Il me dit, je ne réponds pas aux gens qui me parlent d'une poubelle. Et il me claque la porte au nez. Quel salaud! Les gens de cette espèce-là, faudrait s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Allez, Hitler!